VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par le conflit en Syrie. Satisfait du président Donald Trump au sujet de la campagne contre l'État islamique en Syrie. Le président américain considère le califat du groupe djihadiste comme faisant désormais partie du passé. Idrissa Sedoudia.
Le président Trump a vanté, carte à l'appui, les progrès dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique depuis son arrivée au pouvoir. Il a affirmé une nouvelle fois que la chute de leur califat autoproclamé était imminente. Lors d'un échange avec les journalistes à la Maison-Blanche, M. Trump a déroulé une feuille représentant la Syrie et expliqué: tout ce qui est rouge, c'était le groupe État islamique le soir de l'élection en 2016. En bas, c'est la même carte, il n'y a pas de rouge. En fait, il y a un tout petit point et, après dit M. Trump hier, il aura disparu ce soir.
La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Le Conseil de sécurité de l'ONU se rend cette semaine au Mali et au Burkina Faso pour se pencher sur la situation préoccupante de la région du Sahel, où la menace terroriste ne montre aucun signe d'affaiblissement et cause des déplacements massifs de population. Les explications d'Anna Dodson.
Menée par la France, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, cette visite sera la quatrième du Conseil de sécurité au Mali depuis 2014 et la deuxième au Burkina Faso. Le Conseil arrivera vendredi à Bamako où il rencontrera des dirigeants maliens, puis se rendra à Ouagadougou dimanche. Selon l'ambassadeur français aux Nations Unies, François Delattre, la visite du Conseil de sécurité doit permettre de renforcer l'information des membres sur le processus de paix au Mali, la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel et la situation du Burkina Faso, particulièrement affectée par la menace sécuritaire. Les puissances mondiales sont divisées sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la menace islamiste au Sahel. La France étant en désaccord avec les États-Unis à propos du financement de la force anti-djihadiste G5 Sahel, dont sont membres le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette visite intervient alors que le Conseil de sécurité doit par ailleurs réfléchir à l'avenir de la mission de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA. Selon des diplomates, un nouvel affrontement entre la France et les États-Unis se prépare concernant le sort de cette mission, forte de 14 000 membres et mise en place après l'intervention militaire menée par la France en 2013 pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du Mali.
Violence en République centrafricaine, les autorités centrafricaines et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix négocié début février à Khartoum au Soudan se sont entendus à Addis Abeba au sujet de la formation de gouvernement inclusif à Bangui. C'est ce qu'a annoncé l'Union africaine mercredi après la réunion de suivi dans la capitale éthiopienne. L'organisation panafricaine est déterminée à sauver l'accord de paix mis à mal après la formation d'un gouvernement rejeté par les groupes armés. Pour une réaction, Jacques Aristide a contacté Joseph Bendouga, président du Mouvement pour la Renaissance et l'Évolution de la Centrafrique.
La rencontre de Khartoum est un non-événement. L'accord de Khartoum a poussé d'une petite souris et l'Union africaine tente par des prouesses pour ressouder, chercher à redonner vie à un mort-né. Donc Addis Abeba, ce sera exactement comme la Khartoum et nous n'attendons rien de cela. Parce que
évidemment, ça c'est le point de vue d'un opposant, mais écoutez ce que dit le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamad. Il dit les concessions sont difficiles, douloureuses, mais elles sont le prix de la paix. Pourquoi ne pas partager cet avis?
Vous savez bien que l'Union africaine n'a résolu aucune crise en Afrique. Pas mal des États africains en dehors de 4 États pratiquent la démocratie. Affaire enfin que Mahamad Faki, ex-ministre des Affaires étrangères d'un dictateur, le président du Tchad, et ce monsieur qui devient un facilitateur, vous savez, c'est un mélange qui n'est pas bon. Et je pense que les rebelles, si vous voyez bien leurs revendications, ils ont placé la barre haute, ils ont demandé le départ de André Bata. Ils veulent directement communiquer avec le président Ouattara. N'ayant pas obtenu cela, ils vont accepter un autre gouvernement, le deuxième gouvernement André Bata, en moins de 2 mois. Et vous allez voir que dès que les rebelles seront en Centrafrique, ben, ils vont retourner leur veste. Ils ont un agenda caché. Et l'accord de Khartoum ne peut pas tenir parce que cet accord-là viole aussi la constitution de la République centrafricaine. Nous l'avons déféré devant la Cour constitutionnelle qui se prononcera dans les jours à venir. L'accord de Khartoum viole les articles 23 et 28 de la constitution de la République centrafricaine.
Dans les grandes lignes, que recommande ce nouvel accord pour sortir de la crise? Que réclamez-vous par exemple?
Mais vous savez pertinemment que l'article 23 de la constitution oblige toute personne résidant sur le territoire national de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République en prenant les armes contre l'État centrafricain et le peuple centrafricain. Les rebelles ont violé l'article 23.
Joseph Benduga, président du parti d'opposition Mouvement pour la Renaissance et l'Évolution de la Centrafrique, qui intervenait hier de Bangui dans notre journal télévisé Le Monde Aujourd'hui.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Cameroun, poursuite de l'agitation anglophone, au moins 5 personnes ont été enlevées mercredi dans 2 kidnappings signalés dans les 2 régions anglophones du pays, où 80 autres personnes ont été dépouillées le même jour par des séparatistes. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Ces 80 personnes qui voyageaient en bus ont été attaquées par des séparatistes sur la route entre Boya et Kumba, dans le sud-ouest. Ces derniers prennent fréquemment des otages sur cet axe en échange de rançons réclamées à leurs familles par transfert mobile. À Boya même, au moins 4 joueurs de l'équipe de football de l'université de la capitale du sud-ouest ont été kidnappés hier matin en pleine séance d'entraînement. Et à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, un ex-secrétaire d'État, Emmanuel Ngafesson, a été enlevé en plein centre-ville mercredi matin, a affirmé à l'AFP une autorité locale, précisant qu'il n'avait pas été libéré depuis. La veille, l'entraîneur de Sport Academy de Bamenda, Emmanuel Ndoumbé Bosso, un ancien lion indomptable, a lui été libéré après plusieurs heures de captivité, nous signale notre correspondant Emmanuel Genentap.
Actualité aux États-Unis maintenant, le procès sur le produit Roundup du géant agrochimique Monsanto est toujours au centre des débats à San Francisco en Californie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La question n'est pas de savoir si vous aimez Monsanto ou pas, a soutenu l'avocat du groupe hier devant le jury d'un tribunal chargé de déterminer si le géant agrochimique a volontairement caché la dangerosité du désherbant Roundup. Mardi, ce même jury a estimé que le célèbre et controversé produit a contribué au cancer d'un septuagénaire qui a vaporisé du Roundup sur sa propriété pendant plus de 25 ans. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'un jury juge ce produit cancérigène. Cette décision, qui a fait plonger en bourse l'action Bayer, nouveau propriétaire de Monsanto, a ouvert la deuxième phase de ce procès. Désormais, les jurés doivent répondre à 2 questions. Est-ce que Monsanto est responsable de l'affection d'Edwin Herdman? Et si oui, quels sont les dommages et intérêts qu'il devrait payer? Bayer fait face à quelque 11 200 procédures similaires rien qu'aux États-Unis. Lors d'un premier procès en août, il a été condamné à verser 289 millions de dollars à un jardinier malade d'un cancer en phase terminale, une somme ensuite réduite par un juge à 78,5 millions de dollars. Le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, a classé en 2015 le glyphosate comme cancérigène probable, mais pas les agences européennes EFSA, chargées de la sécurité des aliments, et ECHA, qui s'occupe du contrôle des produits chimiques.
Et vous terminez, les séquelles du cyclone Idai en Afrique australe appellent à l'aide urgente du ministre mozambicain de l'Environnement, Celso Correia, aux secouristes pour qu'ils portent assistance en priorité à au moins 15 000 personnes qui ont besoin d'être secourues rapidement dans les zones inondées au Mozambique. Après le passage la semaine dernière du cyclone Idai, qui a déjà fait 217 morts dans le pays. C'est une lutte contre la montre, chaque minute compte, a prévenu ce jeudi le ministre Correia. Par ailleurs, les secours s'organisent difficilement pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés affectés par le cyclone meurtrier qui a balayé l'Afrique australe. L'ONU a annoncé mercredi le lancement d'un appel de fonds massif aux pays membres pour financer les opérations de secours après les énormes dégâts causés par Idai qui a ravagé 3 pays de la région, le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi. Au Zimbabwe, le nombre de sinistrés dus aux cyclones et aux inondations atteint désormais un total de 200 000 dans les régions proches de la frontière du Mozambique, a annoncé l'ONU aujourd'hui. Merci de votre attention.